C'est vendredi, on parle de cinéma avec Mathieu Mélec-Prévost. Salut Mathieu, bon vendredi.
Salut, oui, bon vendredi à toi aussi.
Bon, après une disette d'à peu près 8 ans, on remet encore une fois ça sur la table. C'est Hunger Games, c'est donc le cinquième opus, la balade du serpent et de l'oiseau. Écoute, je suis un petit peu déstabilisé, mais je vais me fier à toi pour nous faire le portrait là, de la mise en situation pour ce qui est de cette nouvelle opus.
Ça fait 8 ans qu'on n'a pas eu d'opus d'Hunger Games, étant donné que la série précédente se concluait plutôt bien d'elle-même, qui était basée sur 3 romans qui étaient très bons. J'avais lu les romans à l'époque. Et donc, cette fois-ci, on revient avec une préquelle. Un concept intéressant ici à développer, vu que c'est un univers qui était très large, plus large que ce qu'il nous offrait dans les films originaux. Donc, on voit une préquelle qui se déroule 60 ans avant, et on va s'attarder sur un des personnages qui est clé dans l'univers d'Hunger Games, dans les films précédents, qui est l'antagoniste principal, qui était le président Snow. Ici, on va voir sa jeunesse et sa montée en puissance et comment il est devenu l'antagoniste tyrannique de la saga originale. Donc, c'est intéressant comme concept. Mais avant de tout se plonger à fond dedans, c'est un extrait pour nous.
Oui, on écoute ça tout de suite.
Les jeux sont là pour punir les districts. Ces tribus n'ont pas le choix.
Votre rôle est de transformer ces enfants en bêtes de scène, pas en survivants.
Nous sommes en direct.
Souriez. C'est pour ça qu'on a tes dents.
Imagine que ton nom a été tiré à la moisson. J'aurais juste envie qu'une personne se soucie un peu de moi, comme si j'avais encore de la valeur.
Bienvenue au Capitole.
On dirait que tu n'es pas à ta place ici.
En effet, mais je suis ton mentor.
Un rebelle.
Je vais te sortir de là.
Vous voulez protéger les gens? Alors il est essentiel d'accepter ce que sont les êtres humains.
Attends !
Et ce que ça engendre de les contrôler. Voyons de quelle façon Snow se sert de son célèbre charme.
Voilà donc un peu la mise en situation. Et bon, là, comme tu le soulignes, ben, l'antagonisme principal, donc on voit d'où il vient et comment il a, on peut dire, fait son chemin à travers tout ça.
Exactement. C'est ça qui est intéressant avec ce récit-là. On ne suit pas un héros, mais bien, je dirais, un vilain, un antagoniste, comme je mentionnais. Ce qui est intéressant, on met un regard sur un élément clé de la série originale. L'histoire se passe 60 ans avant. On suit donc une version jeune de Jon Snow, qui joue cette fois-ci par Tom Blyth. Et dans le fond, ça se passe durant les 10e Hunger Games, qui, pour mettre en contexte, c'est la fois à chaque année, dans cet univers-là post-apocalyptique, ils organisent des jeux où ils réunissent 24 tribus à travers les 12 districts de ce monde-là. Ils doivent s'entretuer dans une arène et le gagnant gagne des prix, l'honneur et tout ça, il peut retourner chez eux. Et donc, cette façon, on retourne 60 ans avant au 10e Hunger Games. Et à ce moment-là de l'histoire, dans le fond, les Hunger Games ne sont plus aussi intéressants qu'ils l'étaient. Il y a une perte de vitesse. Et c'est à ce moment-là que Jon Snow va apparaître dans le paysage et qui va apporter sa petite révolution dans les Hunger Games, et qui va surtout aussi être le mentor de la fille du district 12, d'où venait l'héroïne de la précédente saga. Cette fois-ci, elle s'appelle Lucy Gray, qui joue par Rachel Zegler, et il va devoir le révolutionner le concept et l'aider à gagner, vu qu'il veut qu'il puisse la protéger sur la championne. Et donc, il y a comme deux histoires qui se suivent en parallèle. Il y a la montée en puissance de Snow et le fait qu'il soit mentor d'une des tribus qui est portée à peut-être devenir championne. Donc, ça, c'est intéressant à suivre. Et ce passager va être sous la supervision de la méchante de l'histoire, qui est une docteure, Dr. Gold, qui joue par l'excellente Viola Davis. Et donc, il y aura toute une thématique politique, comme c'était à force des précédents films, même si les premiers films n'étaient pas autant portés en politique. C'est toujours été la force de la saga des Hunger Games d'avoir une portée politique et un message politique dans cet univers post-apocalyptique. Et c'est encore le cas ici. Je dirais même que c'est un des récits les plus poussés de ce côté-là. C'est d'ailleurs un des meilleurs opus de la saga, à mon avis. On est quand même à 5 films. Et je dirais que les 2 derniers films étaient bien, mais qu'il y avait un peu de perte de vitesse. Ici, vraiment, on renouvelle la formule. On offre un nouveau regard sur cet univers-là. Bienvenue. Qui montre un peu l'évolution d'un personnage qu'on n'a pas pensé qu'il serait parti ou qu'il est parti. Même si je dirais qu'il manque un peu d'éléments sur ce film-là, c'est peut-être ma déception. C'est dans l'épilogue final du film. Quand on arrive au bout de son ascension vraiment finale, je trouve que c'est pas assez poussé loin. On voit où ça mène, mais On s'arrête à un moment que ça peut aller un peu plus loin. Et c'est mon seul regret de ce récit-là. Mais globalement, c'est un récit assez bien ficelé avec une très bonne distribution. Et on a le droit à des Hunger Games, on a le droit à une verre post-apocalyptique vraiment originale, comme il était à l'époque. C'est vraiment intéressant. On a la capitale entourée de 12 districts. Il y a vraiment une disparité entre chaque district et entre la capitale. Et les Hunger Games, ils sont mis de l'avant. On a même un peu d'origine, un peu d'histoire d'origine des Hunger Games qui est assez intéressant. On comprend un peu plus d'où vient l'origine de ces jeux-là, même si dans les livres de base, c'est quand même détaillé. Dans les films, il n'y a pas plus le temps trop de le détailler. Je trouve ça intéressant ici qu'on met plus de contexte, plus de matière dans cet univers-là. Donc, globalement, c'est un bon film qui a vraiment un bon spectacle et une bonne ajout plus-value à l'univers d'Hunger Games. Donc, vraiment intéressant. Je le reprécise, c'est pas un film sur un héros, mais un film sur un vilain. Donc, c'est intéressant à découvrir, mais c'est à savoir pour bien prendre cette œuvre-là pour ce qu'elle nous offre. Donc, globalement, c'est à découvrir autant si on est fan ou pas, même si je dirais qu'il y a certains éléments qu'on pourrait pas comprendre totalement sans avoir vu les précédents films. Ça reste que c'est une préquelle, donc ça peut se prendre bien avant de prendre les autres films. Donc, c'est des deux côtés. Mais globalement, ça reste quand même un très bon film et un des meilleurs opus de saga. Là.
On n'a pas utilisé le flashback pour bien nous aider à associer les gens qui ils sont avant, après. On n'utilise pas le flashback là-dedans, si je comprends bien, puisqu'on ne retrouve pas l'alignement original. On fait juste donc reprendre les mêmes parties de certains personnages, mais carrément plus jeunes.
Oui, effectivement, il aurait pu faire un pont comme ça avec des flashbacks, mais non, on plonge directement dans le passé. On n'a pas vraiment de connexion, on reconnaît l'univers. Il y a des éléments pour ceux qui ont déjà vu les précédents films qui vont reconnaître la capitale, les districts, tout ça. Mais on fait pas de lien direct avec les précédents films, avec des personnages ou avec des événements. On plonge vraiment on a une nouvelle vision de cet univers-là avec des nouveaux acteurs, tout ça. Donc ça peut être déstabilisant un peu pour ceux qui connaissent pas l'univers d'Hunger Games, mais pour ceux qui sont plus ou moins familiers comme moi, ça suit assez bien. Mais comme je dis, globalement, ça reste un très bon divertissement avec une bonne portée politique et une bonne évolution d'un antagoniste intéressant, puisqu'on voit d'où il part et d'où il va devenir. Donc, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent au cinéma. On s'attarde sur un vilain au lieu d'un héros. Oui. Même si, en parallèle, on suit une héroïne qui est jouée par Lucy Gray. Mais ça reste que c'est intéressant comme concept. Là.
OK. Bon, sinon, est-ce qu'on ouvre la porte pour d'autres volets, tu crois, là-dedans?
Pour l'instant, c'est basé sur un seul livre qui est sorti, qui porte le même nom que le film. Mais le film laisse place à un espace qu'on pourrait avoir une suite, vu que, comme j'ai dit, la fin du film ne montre pas complètement l'ascension du passage de Snow. Donc, il reste un peu de matière, je dirais, avant d'atteindre les films qu'on connaît précédemment. Donc, c'est possible, mais en même temps, le film peut se suivre à lui-même. Je pense pas que c'est une bonne idée non plus d'étirer non plus cette histoire-là. Il n'y a pas 10 000 possibilités à faire non plus. C'était la preuve aussi que les précédents films, il y avait peut-être... Il avait fait 4 films et les derniers avaient perdu un peu de leur valeur. Donc, c'est une question de dosage, mais je dirais que c'est pas impossible qu'on voit d'autres films dans cet univers-là, possiblement dans d'autres angles, d'autres personnages, pas nécessairement sur celui-ci qui est quand même bien évolué là, dans ce film-là. Donc, on n'est pas à l'abri de suite vu que c'est un univers assez populaire et à date, c'est un succès au cinéma, cette préquelle-là. Donc, je parierais bien un petit 2$ qu'il y a des suites qui s'en viennent ou d'autres films dans ce nouvel-là, je suis convaincu.
Alors, ben merci pour donc ton éclairage sur cette nouvelle édition de Hunger Game. 2h37 à peu près pour ce qui est de cette version maintenant de la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Merci beaucoup, Mathieu.
C'est toujours un réel plaisir.